Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindel.
La République démocratique du Congo prend acte de l'initiative du président angolais João Lourenço et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au Nord Kivu, le preuve préliminaire de l'examen d'État édition 2026 a été officiellement lancé samedi à l'Institut de Beni. Au moins 270 candidats, dont une vingtaine de femmes, se sont présentés pour cette étape qui évalue les compétences en français, anglais, mathématiques et culture générale. Tariq Saidi, manager international de boxe professionnel au sein de la Fédération congolaise de boxe, est l'invité de ce journal. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, il parle d'un probable combat de boxe entre Martin Bakole et Tony Yoka à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parlé du matin. La République démocratique du Congo prend acte de l'initiative de son Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Ceci est contenu dans un communiqué publié ce vendredi 13 février par la présidence de la République démocratique du Congo, dont une copie est parvenue à Radio Kapi. John Chibouaboua pour les détails.
Selon ses communiqués de la présidence, son excellence, monsieur le président de la République, a accepté le principe d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Ce cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré de suivi et des traitements des incidents. Il implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire, la cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif, l'interdiction de toute tentative de modification du statu quo sur le terrain, ainsi que la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Il suppose également la protection effective des populations civiles et le respect du droit international humanitaire. La République démocratique du Congo rappelle que toute consolidation unilatérale des positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur terrain pendant la période de cessez-le-feu compromettrait gravement à la crédibilité du processus et en affaiblirait les perspectives. La RDC demeure engagée en faveur d'un retour durable à la paix dans le strict respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de la sécurité de ses citoyens, conclut le communiqué.
À Goma, pendant ces temps, la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 a été au centre d'une série de rencontres tenues vendredi entre la chef intérimaire de la MONUSCO et différentes parties prenantes. En séjour dans la ville depuis jeudi, Madame Viviane Van de Peer s'est entretenue successivement avec le mécanisme conjoint de vérification de la CRGL élargi à la MONUSCO ainsi qu'avec la coordination politique de l'AFC M23. S'exprimant devant la presse à l'issue de ces échanges, le numéro 1 de la MONUSCO de la mission onusienne en RDC a souligné que l'appui de la MONUSCO à ces mécanismes de suivi du cessez-le-feu sera progressive. Viviane Van de Peer dans ses propos recueillis par Bernard Nyangi.
Nos échanges ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par l'AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, avec qui je me suis entretenu ce matin. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Et puis, le coordonnateur du Conseil interreligieux congolais CIC, archevêque Dodo Kamba, balise la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il consulte des acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Dans un entretien accordé ce vendredi à Radio Kapi, ses leaders religieux saluent la réceptivité de personnes rencontrées et estiment que cette démarche devrait renforcer la confiance et prévenir la répétition des crises sécuritaires en RDC. C'est archevêque Dodo Kamba au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Une commission que nous appelons Vérité et Réconciliation. Nous estimons que ça devra précéder le dialogue. Ça va décrisper le climat politique et d'après jusqu'ici le rapport à mi-parcours que nous avons dressé à l'interne. Aussi, ça va permettre aux politiques ou encore d'autres responsables des exactions de pouvoir s'amender et ça rentre dans les cadres de la justice transitionnelle, pouvant, à la mesure de possible, pousser le gens à faire ce qu'on appelle, dans notre manière, la repentance, c'est-à-dire se réconcilier avec le peuple tout en demandant pardon pour toutes les actions qui ont fâché, qui ont endeuillé les familles. Et puis, de part et d'autre, nous reconnaissons qu'il y a eu des ratés, des erreurs et des fautes. Donc, question pour nous de baliser le chemin, en quelque sorte. Pour nous, nous considérons ceci comme une pluie qui vient amollir la terre. Ça s'appelle Yure.
Après la ville de Kinshasa, le coordonnateur du CIC prévoit d'échanger avec les acteurs politiques et sociaux à travers le pays, y compris ceux qui se trouvent à l'étranger. Au Nord Kivu, le preuve préliminaire de l'examen d'État édition 2026 a été officiellement lancé samedi à l'Institut des Bénis, une école publique de la ville, chef-lieu provisoire de la province. Au moins 270 candidats, dont une vingtaine de femmes, se sont présentés pour cette étape qui évalue les compétences en français, anglais, mathématiques et culture générale. Les détails avec Marc Marofimbo.
Les candidats se répartissent en trois catégories. Ceux qui n'ont pas suivi le cursus scolaire régulier, ceux ayant échoué lors d'une session précédente de l'examen d'État et ceux ayant réussi une session antérieure dans une option donnée et souhaitant repasser l'examen pour améliorer leurs résultats. Prisca Kama, la coordinatrice provinciale en charge de l'éducation au Nord Kivu, qui a présidé la cérémonie, a encouragé les candidats à rester concentrés sur leurs ambitions futures et à persévérer dans leurs efforts. Prisca Kamala.
Chers participants, votre inscription sur la liste des candidats est une preuve éloquente que vous avez les ambitions que vous comptez matérialiser dans le futur. Je vous exhorte à tenir bon et aller jusqu'au bout. Que l'avenir meilleur auquel chacun aspire, c'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer. En ma qualité de parent, je vous félicite pour avoir pris ce courage de participer à cette épreuve préliminaire. Vous êtes invité à la discipline et à la concentration.
Le chef du centre de passation a précisé que le nombre de candidats pourrait encore augmenter car d'autres se sont inscrits samedi matin. Les épreuves vont durer 4 jours. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Dans la province de l'Ituri, les étudiants de la faculté de droit de l'université de Bunia s'engagent à défendre les droits des enfants dans leur future carrière professionnelle. Engagement pris à l'issue d'une conférence organisée à Bunia par la section protection de l'enfant de la MONUSCO à l'occasion de la journée internationale de l'enfant soldat. Selon son constat, les enfants demeurent les principales victimes des violations des droits humains. enrôlement dans les groupes armés, exploitation économique, privation du droit à l'éducation, à la santé ou encore à l'alimentation. Isaac Remoyo peut nous en dire plus.
Au cours de cette conférence, les étudiants étaient initiés au cadre juridique international relatif à la protection de l'enfant. Ils ont également été informés du rôle des opérations de maintien de la paix, notamment dans la surveillance et la documentation des violations graves, les dialogues avec les parties au conflit, ainsi que la facilitation de la libération et de la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés. Conscients de la gravité de la situation des enfants en Ituri, plusieurs étudiants se sont engagés à vulgariser la loi portant protection de l'enfant afin de favoriser son respect par toutes les coûts sociales.
Il est question de sensibiliser les parents par rapport à ce qu'il doit avoir comme droit un enfant. Donc les parents doivent déjà commencer à assumer les responsabilités par rapport à ce qu'est la protection de l'enfant.
D'autres ont décidé de faire de la défense des droits des enfants leur cheval de bataille dans leur carrière professionnelle. Une étudiante, Sarah Amouti.
Si je fais le droit, c'est parce que j'ai grandi dans une communauté où je vis. L'enfant n'a pas le droit, la liberté d'expression. Je ferai de mon mieux pour défendre le droit de l'enfant.
Par ailleurs, les participants recommandent au gouvernement de mettre fin à l'insécurité qu'ils considèrent comme l'un des principaux facteurs de violation des droits des enfants afin de créer un environnement stable et propice à leur épanouissement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le membre du comité provincial du syndicat des enseignants du Congo SIECO du Congo central ont exprimé jeudi 12 février dernier leur vive inquiétude face à la dégradation des conditions socio-professionnelles des enseignants. Selon les syndicats, la situation du professionnel éducatif en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Congo central reste préoccupante. Pour y remédier, le SIECO Congo central a présenté plusieurs revendications prioritaires. Il exige notamment le paiement immédiat des nouvelles unités à partir d'avril 2026, la suppression des zones salariales à l'échelle nationale et à la mise à la retraite sans discrimination de tous les enseignants remplissant les critères d'âge et d'ancienneté. On écoute Georges Doumbi, son porte-parole au micro de Nana Pluriche Mambou.
Malgré le multiple contrôle de nettoyage de fichiers payés du personnel enseignant, ces nettoyages de récupération des salaires des fictifs n'ont jamais régularisé la situation des NI et NP que nous décrions chaque jour. Nous nous demandons où vont les salaires des fictifs récupérés à chaque nettoyage afin de rémunérer certains impayés. Il essaie de vous signaler que les enseignants du primaire, secondaire et personnel de bureau gestionnaire contribuent à la CNSAP pendant plusieurs années, mais le gouvernement retraite seulement quelques enseignants du primaire tout en négligeant ceux du secondaire et de bureau gestionnaire qui en ont droit statutairement. Et à quand les retraites? Pour ce faire, le syndicat des enseignants du Congo SIECO en sigle Congo central demande ce qui suit. Le paiement immédiat de NI et NP à partir du mois d'avril 2026. La retraite du personnel enseignant remplissant le critère de la retraite, qu'il soit du primaire, secondaire et bureau gestionnaire, en vue de rajeunir cette classe éducative.
Ici à Kinshasa, la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels d'ESC dénonce le non-respect des droits des citoyens lors des opérations de démolition à Kinshasa. Au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce samedi, le coordonnateur de cette structure, Jean Bosco Pouna, souligne plusieurs irrégularités commises par l'exécutif provincial. Il insiste notamment sur la nécessité d'indemniser les propriétaires des parcelles démolies injustement. Jean Bosco Pouna au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Tout en reconnaissant le droit à l'exécutif provincial de rétablir l'ordre et de récupérer les emprises publiques pour besoin d'utilité publique, la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels fait remarquer que cette opération porte atteinte à plusieurs principes et droits reconnus aux citoyens, à savoir absence de concertation avec la population concernée pour leur adhésion à la décision de l'autorité. Cette opération n'a pas procédé au préalable à l'identification de toutes les personnes touchées par cette opération. Cette opération de l'exécutif provincial n'a prévu aucune mesure de compensation aux victimes. Pas de relocalisation fiable, pas d'indemnisation à la hauteur des pertes subies, pas de décision de justice. Cette opération est entachée des injustices, des discriminations qui préjudicient les Congolais très appauvris au profit des sujets expatriés. Les cas du site de RVA de la commune de Lancelé en dit très long.
De nombreux observateurs estiment que la part des responsabilités est partagée entre d'un côté l'État qui lotit et les citoyens qui acceptent de construire dans les sites non constructibles.
Actualité internationale.
Le 39e sommet de l'Union africaine est à présent terminé. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine ont discuté des principales crises qui touchent les continents. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui a pris à l'occasion de ce sommet la présidence tournante de l'UA, et le président de la commission, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, en ont présenté ce dimanche 15 février les principales conclusions lors d'une conférence de presse finale.
L'invité.
Tariq Saidi, manager international de boxe professionnelle au sein de la Fédération congolaise de boxe, est notre invité. Dans cet entretien avec Vanessa Kongolo, il nous parle de l'organisation d'un probable combat de boxe entre Martin Bakole et Tony Yoka ici à Kinshasa. Suivez.
Monsieur Tariq Saidi, bonjour.
Bonjour Vanessa.
Vous êtes manager international de boxe professionnelle au sein de la Fédération congolaise de boxe.
Tout à fait.
Actuellement, sur les réseaux sociaux et partout, ça parle d'un probable combat entre Martin Bakole et Tony Yoka ici à Kinshasa. Est-ce que ce combat est-il possible d'être organisé en 2026?
Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible. Dans un premier temps, pour répondre simple à votre question, oui, c'est possible, puisque dans la boxe, tout est possible. Mais combien de fois dans ce monde de boxe, on a pu entendre parler de combats qui au final ne se sont jamais faits? Donc il faut toujours avoir ses réserves et se dire oui, c'est possible ici en RDC, puisque les qualités des deux boxeurs sont réunies pour qu'elles puissent s'affronter. Elles sont poids lourds toutes les deux. On parle de Martin et de Tony. Le Congo est prêt à accueillir ce combat. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner jusqu'à la fin.
Vous avez été invité par le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Dites-nous, quel a été l'objet de vos échanges et où en êtes-vous avec les discussions autour d'un probable combat Tony et Bakole?
Son Excellence, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, m'a invité dans une province que j'ai découverte, le Bas-Congo, à Kasangoulou, sa ville.
Le Congo central.
Le Congo central, voilà. C'était très bien. Et on a pu échanger avec Tony Yoka, son père. Lui, il était déjà prêt, dans le sens où il a déjà exprimé des conditions, des choses. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore le point des managements des boxeurs, qu'il ne faut pas non plus négliger. Pour l'instant, quand les boxeurs s'expriment, c'est une chose. Mais derrière, quand ils sont sous contrat, ben c'est le contrat qui parle. Et ces aspects techniques qu'il faut déjà regarder avant de pouvoir se dire oui ou non.
Vous vous êtes déjà entretenu avec les deux boxeurs?
Oui, je me suis entretenu aussi avec Martin, bien sûr. J'ai parlé avec Martin dès mon arrivée. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Martin, je suis là. Il m'a dit, ah, super, Tariq. Je lui ai dit, oui. J'ai suivi les réseaux sociaux. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je lui ai dit, non, mais je voudrais savoir. C'est le ministre des Sports qui m'a fait cette invitation, puisque je suis le manager au sein de la fédération, appelé par aussi le général Loyoyo. Donc, à partir de là, on va essayer de travailler pour construire et voir si c'est possible. Il m'a dit, c'est super. Déjà là, c'est bien parce qu'on va partir dans une voie un peu plus logique en disant comment professionnellement ce combat pourrait se faire.
Est-ce que vous avez un calendrier préétabli pour entrer en contact avec les managers des dépugilistes?
Pour moi, oui, c'est possible. Mais maintenant, dans quel calendrier? C'est ça. Vous avez posé la bonne question, Vanessa. Quel est ce calendrier? À nous de le déterminer maintenant et d'essayer de comprendre avec les teams respectives et en continuant les discussions avec les athlètes pour savoir quel sera. Et donc ça, je pense que ça sera une annonce qui sera faite par son Excellence le ministre des Sports.
Quelles sont les étapes à suivre pour arriver finalement à l'organisation de ces combats?
La première étape, c'est d'abord, est-ce que les boxeurs aimeraient se combattre? Il n'y a jamais un boxeur qui va dire non, je ne veux pas le combattre. Vous voyez? Donc c'est impossible qu'un des deux dise non. Ça, c'est clair. Ils se sont déjà affrontés. Martin a gagné, comment il pourrait avoir peur d'affronter Tony? Tony, il a perdu, il sait qui est Martin. Donc il a envie de prouver que ce jour-là, il n'était pas prêt. Donc tout boxeur qui perd va avoir une revanche. Maintenant, le Congo, je pense que les moyens sont mis en place, l'intérêt est présent. Je vous le dis, le calendrier, Vanessa, il faut juste regarder et le déterminer pour essayer de voir et comprendre avec ces managements anglais que les deux boxeurs ont. Qu'est-ce qui est possible d'être fait ou pas?
Donc, on peut dire que la suite maintenant, ça sera un travail au niveau de l'administration et du management.
Exactement. Puisque moi, je pense que si on arrive à travailler correctement pour l'intérêt du sport, on verra ces deux grands boxeurs congolais, ici, écrire une nouvelle histoire de la boxe en RDC à travers le fait qu'ils soient poids lourds par rapport à l'histoire de Ali Foreman, deux Américains sur le sol congolais. Ça, je pense que ça sera possible.
Alors, ils vont répartir au stade Tata Raphaël ou bien ils vont changer vers les stades de martyrs?
Non, une nouvelle histoire s'écrit dans un nouvel endroit. À l'époque, il n'y avait pas le stade des martyrs. Maintenant, il y a le stade des martyrs. Ça serait dommage de se priver de 80 000 places. Le stade Tata Raphaël. Laissons l'histoire de Ali Foreman à Tata Raphaël. Essayons de créer l'histoire Yoka Bakolé dans un endroit qui le mérite. Je pense le stade des martyrs, 80 000 places. Ça donnera en plus un effet de grandeur à la RDC. Il faut se rappeler les jeux qui ont été organisés.
Les jeux de la francophonie.
Ah, vous avez vu, c'était magnifique. Donc, non, je pense que c'est vraiment un bel élément sportif qu'il faut mettre en valeur. Et je pense qu'avec un combat comme ça, il ne faut pas du tout hésiter et montrer que le public congolais sera là et ainsi de suite. Donc j'espère fortement que ça se fasse. Mais au stade où nous en sommes, Vanessa, je ne suis pas à même
de donner
les dates et de vous donner la vérité de ça, entre guillemets, puisqu'il y a tellement de discussions et cette annonce doit être faite par le ministre des Sports, pas par moi-même.
Alors, on comprend qu'il y a un travail qui doit être fait. Alors, monsieur Tariq Saïd, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, tout en espérant que vous reviendrez vers nous de temps en temps pour nous donner l'évolution de ce grand travail que vous devez abattre pour arriver à organiser ces combats.
Merci beaucoup, Vanessa. Merci à Radio Okapi.
Et c'est aussi la fin de notre journal du matin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.